Bienvenue à bord. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de Sacha Guitry. Alors peut-être certains vont dire encore, non monsieur, toujours, toujours Sacha Guitry, parce que c'est peut-être avec deux ou trois autres parmi les plus grands artistes français du XXe siècle, ils savaient tout faire. Et heureusement, j'ai avec moi deux personnes qui rendent hommage à Sacha Guitry. Tout d'abord, Albert Wilmets. Bonjour, Albert Wilmets.
Bonjour, Alain Pocard.
Vous êtes auteur, vous êtes acteur, vous êtes peut-être même un peu metteur. Vous avez jamais mis en scène une pièce ou deux?
Oui, que j'avais écrite au Théâtre des Mathurins il y a quelques années.
Ça ne nous rajeunit pas. Éditeur, parce que président de l'Association des Amis de Sacha Guitry. Et puis nous avons avec nous, c'est la première fois que je le reçois, mais c'est un garçon formidable, il a mis toute son énergie autour d'une revue, il s'agit de Patrick Wagner. Bonjour Patrick.
Bonsoir Alain Pocard.
Alors vous êtes le fondateur de la revue Livre Arbitre, qui vient de consacrer un dossier consacré à
Sacha Guitry.
Voilà. Alors, comment rentre-t-on en contact avec les associations des amis de Sacha Guitry, Albert Wilmets?
Oh, c'est très simple, il suffit de chercher sur Google « Association des amis de Sacha Guitry » et on tombe sur le site tout de suite qui est associationdesamisdesachaguitry.com avec des petits traits entre chaque nom.
Voilà. Et quant à notre ami Patrick Wagner, je sais que cette revue Livre Arbitre, dont nous célébrons aujourd'hui le numéro 53,
affirmatif,
c'est pas mal du tout, car il y en a 3-4 par an en général. Hein.
Voilà. En fait, c'est une revue trimestrielle, donc là, c'était le deuxième numéro de l'année.
Mmh.
Et donc, pareil, nous aussi, on peut nous contacter sur Internet, il suffit de taper le nom Livre Arbitre et puis après vous avez le...
Il y a quelques librairies qui le vendent quand même.
Oui, alors sur Paris, parce que la province est un peu plus compliquée, mais sur Paris on a l'Écume des Pages, le Dilettante, voilà. Donc
le Dilettante, grand éditeur, grand libraire, grand camarade, Dominique Gauthier. Oui, alors, tout ça c'est très bien, mais on vous a vu... Alors, vous, Albert Wilmets, on vous a vu et entendu récemment chez Renaud Dourge dans son émission Populaire, vous avez dit Populaire, pour un livre de une réédition de Sacha, si j'ai bonne mémoire.
Absolument, c'est-à-dire que l'Association des Amis de Sacha Guitry est en train de publier, grâce à l'ayant droit Christian Aubard, la totalité de l'œuvre de Sacha Guitry. Nous avons donc à publier 125 pièces de théâtre, ce qui est énorme. Nous n'en avons qu'une trentaine pour le moment qui sont sur le site. Et nous avons également commencé à publier, si j'ai bonne mémoire, et toute une série de textes de Sacha Guitry, dont le fameux ceux de chez nous qui parlent de beaucoup de personnes françaises illustres, qui a connu Sacha Guitry, qui a connu absolument tout le monde. Et en plus, nous avons un certain nombre de livres sur les très proches de Sacha Guitry, notamment Yvan de Printemps, que j'ai eu la chance merveilleuse, grâce à ma famille, de pouvoir connaître pendant 20 ans. Je dois être une des rares personnes vivantes à l'avoir connu pendant 20 ans. Alors vous comprenez, je me dépêche. Et nous avons donc une biographie complète d'Yvan de Printemps, de sa naissance jusqu'à la fin avec... un excellent acteur qu'elle n'épousa pas. De première fois, elle est sur les planches à l'âge de 10 ans en théâtre amateur, où elle est repérée, et elle se trouve à la Cigale, après, à l'âge de 13 ans. Et nous avons publié également Sacha Guitry, Yvan de Printemps, c'est-à-dire le merveilleux amour entre les deux, grâce à des archives absolument inédites, qui nous permettent de mieux comprendre le couple Sacha Guitry.
En fait, vous avez publié deux livres sur Yvan de Printemps, il y en a un... pour lequel je vous ai déjà reçu.
Absolument.
Et là, on va parler tout de suite d'Yvan Printemps. Mais avant, je voulais aussi me tourner vers Patrick Wagner, parce qu'on a parlé de Livre Arbitre cette semaine déjà.
Ah, mais écoutez, tant mieux, c'est formidable.
Sur Radio Courtoisie.
On n'en parle jamais assez.
C'était Xavier Aymant.
Ah oui.
Alors, vous êtes le fondateur, mais Xavier Aymant est plutôt le rédacteur en chef maintenant.
Oui, voilà. Bon, écoutez, on fait ça tous les deux, en fait.
En famille.
Oui,
en
voilà, c'est ça.
Et alors, il a été très gentil, parce que comme quelqu'un disait qu'il était là, je ne sais plus si c'est peut-être Richard de Sèze qui a dit, mais il y a Alain Pocard écrit dans cette revue, il a dit oui, oui, et il m'a fait très plaisir, Xavier Aymant, il a dit, Quand on l'a rencontré, il nous a ouvert.
Ah, mais tout à fait, oui. Je tiens vraiment à vous remercier d'ailleurs à ce sujet. Bon, je pense que je l'avais déjà fait, mais j'en profite d'être au micro pour vous remercier à nouveau parce que quand je suis arrivé à Paris, montant de ma province, voilà, je connaissais pas grand monde.
À quel âge?
Oh, ben c'était il y a une quinzaine d'années maintenant.
Bien, vous auriez pu chanter la chanson d'Aznavour à 18 ans.
Non, non, quand même pas, je vais déjà la trentaine. Mais enfin, voilà, vous avez ouvert votre carnet d'adresses et par votre intermédiaire, on avait pu rencontrer bon, Alfred Ebel, Michel Mourlet, Jacques Aboukaya et puis d'autres, et puis François Casby également.
Et puis je vous ai fait publier Tullard, Jean Dutour.
Oui, tout à
Tullard,
fait.
Tullard, parce qu'il est très ouvert, c'est un homme formidable, je l'ai encore vu au prix des Hussards mercredi, et je lui ai dit, vous êtes un grand homme, il dit, mais non, mais c'est vrai. Et puis Frédéric Dutour, qui est l'ayant droit de notre cher Jean Dutour, que nous aimons tous. Hein.
Et comment,
voilà.
Mais il mériterait un portrait dans un prochain numéro, on verra.
Qui ça?
Dutour.
Il y a déjà eu un numéro
Dutour. Non, on n'est pas consacré un numéro entier à Dutour maintenant. On l'avait évoqué, mais on n'avait pas encore. On verra, on a le temps.
Bah oui, on a le temps, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est absolument formidable parce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai mis en relation. Ah,
voilà,
hein,
en plus, absolument. Oui. Vous êtes vraiment indispensable.
Alors, Albert Villemette, s'il y en a qui vont dire, oh, mais dis donc, ça me dit quelque chose. Parce qu'on croyait qu'il a quel âge? Mais non, vous n'avez pas 125 ans.
Oui, genre, je sais que je suis plutôt jeune. Et quand j'étais jeune, il y a 3-4 ans, comme disait Sacha Guitry, non, c'est mon cher grand-père, Albert Villemette, c'était le meilleur ami de Sacha Guitry. Ils étaient ensemble en 6e à Sainte-Croix de Neuilly. Et ils se sont retrouvés à l'occasion d'une revue à faire ensemble. Et c'est dans cette revue que va venir Yvonne Printemps. Quinçon, qui avait une demi-douzaine des plus beaux théâtres de Paris, leur avait demandé donc de faire cette revue. Et la femme de Sacha Guitry de l'époque, Charlotte Lizès, dit cette phrase étonnante. « Oh, je rentre du théâtre Antoine, j'ai vu une actrice extraordinaire, il faut la voir. » Alors, Albert Villemette et Sacha Guitry sont allés le lendemain au Théâtre Antoine. Ils l'ont vu. C'était Yvonne Printemps. Et le titre de la revue à la demande de Sacha Guitry est « Il faut la voir, L'A.V.O.I.R. » Alors, en réalité, Charlotte Lizès avait eu une petite aventure avec un baryton, ce qui n'est pas une excuse. Mais comme Sacha Guitry considère que lorsqu'on est marié, la seule chose qui compte, c'est pas le côté administratif, mais c'est les sentiments mutuels qu'on appelle l'amour, et qu'elle avait un peu éloigné des choses. Quand il a vu Yvonne Printemps pour la seconde fois, car le livre Yvonne Printemps explique qu'en réalité il l'avait vu une première fois, il est tombé sous le charme immédiatement, il va faire cette revue avec Albert Villemette et des opérettes spécialement pour Yvonne Printemps également.
Alors, faudrait peut-être dire, ne pas oublier qu'Albert Villemette est parolier. Combien de chansons, de paroles de chansons a-t-il écrites?
Alors, Albert Villemette a écrit 3000 chansons, plus de 100 opérettes. Alors, dans les chansons, vous avez Mon homme, Il ne faut pas s'en faire.
Est-ce que c'est lui qui a écrit pour Miss Tinguette, Il m'a vu nu?
Pour Miss Tinguette, vous avez J'ai des belles gambettes, vous connaissez, etc. Et Mon homme qui a été le plus grand succès de Miss Tinguette.
Vous m'avez dit dans une précédente émission, mais on va le redire pour les étourdis qui l'ont oublié peut-être, qu'en fait, au départ, c'est une chanson un peu pour se moquer du côté dur, etc., un peu à la Fraëlle, que j'adore d'ailleurs par ailleurs, et puis que ça va être pris au premier degré.
Oui, au départ, il y avait une tradition familiale qui dit que la chanson était sur un rythme beaucoup plus rapide, ce qui le donnait un côté un petit peu comique. Et très intelligemment, ils se sont rendus compte que le texte décrivait une tranche de vie, un sentiment très fort d'une femme pour quelqu'un qui n'est pas recommandable, mais néanmoins l'amour transcende tout.
Disons-le, un macro, quoi.
Exactement. Et dans ces conditions-là, la chanson étant sur une réalité de la vie, et où la femme se retrouve dans une situation épouvantable, mais elle est amoureuse, ce qui permet de décrire mon homme d'une façon plus réaliste. Et il fallait donc surtout pas la transformer en plaisanterie, car ce n'est pas une plaisanterie. C'est au contraire, comme dans beaucoup de chansons d'Albert Villemès, qui par ailleurs était juriste, était le secrétaire de Clémenceau, à la Libération, a été président de la SACEM, car il est extrêmement anti-allemand, mon
mais
père...
Mais jusqu'à la fin de sa
oui,
vie.
Oui, président de la SACEM, président de la CISAC et de la SACEM européenne, il a eu les bouffes parisiens pendant 30 ans. Cocteau a créé ses pièces pendant l'occupation après avoir été éjecté de façon honteuse par un théâtre dont je ne dirai pas le nom, ni les circonstances. Et Albert Villemets a découvert énormément de monde, dont André Roussin et beaucoup d'autres personnes. C'était extrêmement sympathique.
Et lui-même a fait des livrets d'opérettes, de concerts.
Alors les grandes opérettes, c'est
Fifi. Comédie musicale,
oui,
comme on dit.
C'est Fifi, Dédé, Là-haut, ta bouche, Dédé, où vous avez Dans la vie, faut pas s'en faire, par exemple, comme chanson de Marie Chevalier.
Sur la bouche, ça m'effarouche.
Ah, exactement, il y a ça aussi. Et il y a Ta bouche, tout court, également. Enfin, c'est absolument prodigieux le nombre de succès qu'Albert Villemets a réussi à avoir, et il y a plusieurs dédicaces de livres de Sacha Guitry à Albert Villemets, où il écrit « Albert Villemets, donc à mon meilleur ami, Sacha Guitry ». Et il y a la dédicace d'après, exactement le même texte, et il rajoute « Il y a des moments où on aime bien se répéter ».
Bah,
il se voyait tous les jours.
Alors, notre ami Patrick Weiner est absolument attentif à toutes vos,
ah oui,
vos
je paroles.
Bois les paroles,
oui.
Est-ce que, Patrick Weiner, est-ce que vous connaissez toutes des chansons dont on parle ? Oui, mon homme, quand
oui,
même.
Voilà, mais après, j'avoue que dans l'ensemble, non, ça me.
Ça donne envie de creuser quand même. Voilà. Alors, d'abord, une petite question, comme ça, évidemment, je connais la réponse, mais il faut quand même que je vous la pose. Yvonne Printemps, est-ce que c'est un pseudonyme ou son vrai nom ? Et deuxièmement, si c'est un pseudonyme, qui l'a trouvé, Guitry ?
Alors, ce qui est charmant, c'est donc à l'âge de 10 ans, elle est repérée par la femme d'un grand directeur de théâtre de Paris, théâtre amateur. À 13 ans, elle commence à la Cigale, escortée par sa mère, qui était extraordinairement sévère et farouche, qui ne quittait pas sa fille. Mais Yvonne Printemps, dès l'âge de 13 ans, avait une joie de vivre, une gaieté, une façon de chanter, une joie de vivre telle que ses camarades sur scène l'ont dit « Ah, voilà Printemps. Ah, c'est Printemps. » Et elle a gardé Yvonne Printemps.
Remarquez, c'est mieux que de s'appeler Hiver.
Voilà, alors ça c'était pour la mère qui était tellement stricte.
Ah bon
non, nous avons publié des photographies d'Yvonne et de sa mère. Bien sûr, je préfère Yvonne, mais c'est parce que je l'ai connue peut-être aussi, j'ai pas pu connaître la mère, bien que la mère est morte pas à un âge tout à fait sérieux. Et Yvonne Printemps a gardé ce nom, mais quand elle avait 20 ans, au moment où elle a rencontré Sacha, et même un peu avant, elle disait « Printemps, est-ce que c'est pas un peu ridicule à mon âge ?» C'est merveilleux. Mais c'était une femme dont seule l'intelligence pouvait dépasser le charme. Et son charme était absolument continu. C'est une merveille.
On va lui rendre hommage, si vous permettez, avec des chansons et avec une petite surprise dans la première chanson. Mais on va la découvrir ou on l'annonce avant ? Non, on va la découvrir. Et alors, avant de passer ce morceau qui s'intitule « S'il est vrai », qui est extrait de « L'amour masqué » d'André Messager, avec des paroles de Sacha Guitry. Je voudrais rendre hommage à Jocelyn, parce que vous savez, Jocelyn, je lui rends jamais hommage. Il me fait un travail extraordinaire, c'est un excellent technicien. Et en plus, c'est un charmant garçon, vous voyez, avec qui je m'entends magnifiquement. Alors, Jocelyn, je vous le demande à genoux, Jocelyn, mais passez-nous « S'il est vrai » de Yvonne Printemps, s'il vous plaît.
Viens, s'il est vrai que tu m'attends, viens dans mes bras que je te tends, mets ta rose auprès de ma rose. Offrir son bras, c'est vraiment peu, et puisqu'on peut t'offrir les deux, pourquoi faire à moitié les choses?
Entre tes bras que tu me tends, sais-tu pourquoi, toi que j'attends? Je me blottis, je me pose. Sais-tu de moi certaines choses? Sais-tu pourquoi, toi que j'attends? Je t'aime tant.
cherchons pas de raison. Les mots ne sont plus de saison lorsque déjà les corps se frôlent. Tu m'attendais, je suis venu, mais puisque tu veux l'inconnu, l'inconnu veut garder son rôle. Je ne sais pas faire la cour, mais dans l'art de faire l'amour, on m'a dit que j'étais un maître. Mon masque tient, garde le tien, car j'aimerais beaucoup demain pouvoir ne pas te reconnaître.
Entre tes bras, quand tu me tiens, sais-tu pourquoi je sais si bien souscrire à ce que tu proposes? Sais-tu pourquoi je suis ta chose? Je suis ta chose à ce point-là. Sais-tu pourquoi?
Sous ton masque de velours noir, quand tu tressailles, je crois voir toutes les belles inconnues qui passèrent sur mon chemin, dont je n'ai pu toucher la main, et qu'hélas, je n'ai jamais eu, jamais jusqu'ici, mais ce soir, je vais donc toutes les avoir, baisant leurs lèvres sur les tiennes, et quant aux bouches qui t'ont plu, et que tu n'as pas eu non plus, viens donc les baiser sur la mienne.
La surprise, évidemment, c'est que Sacha Guitry parle, mais il ne chante pas. Il n'a jamais chanté, Albert Wilmets.
Non, ce qu'il a fait, c'est une chose inouïe dont on n'a pas d'autre exemple. Par amour pour Yvonne Printemps, il va écrire 4 opérettes, seul. Quand on aime, on ne partage pas, alors que les 7 revues qu'il fait pour Yvonne Printemps, il les fait avec Albert Wilmets. Nous venons d'entendre L'amour masqué. Pourquoi masqué? Parce qu'Yvonne Printemps, dans le rôle, rentre chez un photographe et qu'elle voit une photographie d'un jeune homme. Oh, ce qu'il est beau! Et arrive un monsieur un peu plus âgé. Et elle lui dit, oh monsieur, c'est la photographie de votre fils? Et en réalité, c'était la photographie de lui quand il était plus jeune. Donc, ils vont se masquer et je ne vous raconte pas toute l'histoire. Après, Sacha va faire une chose absolument invraisemblable parce qu'Yvonne Printemps n'avait qu'une envie, c'était de jouer le rôle d'une vieille dame. Il faut le faire quand on est jeune de se dire pour une.
Non,
voilà, c'est rare, c'est rare.
Non, c'est pas si. Allez-y, continuez.
Et donc, il écrit Mariette ou comment on écrit l'histoire, où elle est jeune au début et c'est une vieille dame après. Elle recommencera plus tard à la Michaudière dans une autre pièce où elle se vieillira au départ et elle sera toute jeune à la fin. Mais là, c'est l'inverse. Et après, vous avez cette chose invraisemblable où aussi Sacha Guitry ne chante pas, puisque le grand rôle, à chaque fois, c'est le rôle d'Yvonne Printemps. C'est écrit par amour pour elle, c'est Mozart, où Yvonne Printemps va jouer le rôle de Mozart en travesti, ce qui est absolument invraisemblable. Imaginez la plus grande des vedettes françaises, femme, faisant croire qu'elle est Mozart sur scène et que les gens le trouvent bon, comme on disait. Et là, également, il a le rôle très effacé du baron de Grimm. Yvonne chante et Sacha est en retrait. Et quand il y aura le divorce entre deux, il va lui faire jouer Mozart pour pouvoir lui assurer des revenus, pour lui donner le plus beau rôle qui est du succès international. Il va même s'occuper de la mise en scène alors qu'ils sont en plein divorce. On ne peut pas être plus généreux.
C'est un homme courtois, mais est-ce que c'est en pensant à Pierre Fresnay, qui lui a pris sa femme, qu'on peut dire qu'il aurait écrit « Quand on pense à un homme qui vous a pris votre femme, on pense à ce dont il se contente, à votre avis ?»
C'est très particulier parce qu'il n'a jamais dit de mal sur aucune de ses femmes. Mais je pense que cette phrase est valable pour beaucoup d'hommes qui ont eu leur front frappé par quelque chose.
Par la malédiction. Nous sommes sur Radio Courtoisie et j'ai le grand plaisir de recevoir Albert Villemetz, qu'on ne présente plus mais on le présente quand même, qui dirige l'association des amis de Sacha Guitry. Et Patrick Wagner aussi, qui est le fondateur de la revue Livre Arbitre, qui en est à son 53e numéro, et dont le dernier numéro, comme par hasard, est consacré à
Sacha Guitry.
Eh ben voilà, et on a déjà les messages. Oui, alors bon, il y a Roland qui nous envoie un petit message là. Sacha Guitry peut-il être considéré comme le Molière du XXe siècle? Parce que, réponse à qui on demandait quoi de neuf aujourd'hui à Sacha Guitry...
Il répondait toujours quoi de neuf? Molière. Et en réalité, si nous regardons bien, Molière n'a parlé pratiquement que majoritairement des rapports entre les hommes et les femmes, avec certaines caricatures sur les hommes et sur certaines professions. Sacha va aller uniquement dans son fond et parler uniquement des rapports entre les hommes et les femmes. C'est indémodable. Ce point de vue et ce parallèle est extrêmement unique. Et combien d'auteurs étaient connus du vivant de Sacha Guitry qui, malheureusement, aujourd'hui, n'ont plus les faveurs du public. Sacha Guitry a passé l'épreuve du temps. Et c'est une chose qui est rarissime.
Alors, on va maintenant parler du collectionneur, de celui qui avait une maison magnifique qui a été rasée. Vous savez, il y a un mot de Michel Simon, il parle d'un gouvernement d'analphabète, ce qui est pire que d'un culte, parce que si on n'est pas cultivé, c'est pas trop grave, mais quand on est analphabète, c'est vraiment aujourd'hui en France, il y en a peut-être plus qu'on ne croit d'ailleurs. Et Michel Simon disait ce gouvernement d'analphabète qui a laissé détruire sa maison, ses collections, mais ça n'a pas arrêté. Alors, est-ce que ça fait... Parce que moi, il y a une maison que je regrette aussi, et vous avez dû connaître ça, vous, Albert. Le Palais Rose de Bonny de Castellane, avenue de Malakoff, qui a été rasé en 1969 pour absence de valeur archéologique. C'est-à-dire, les fondations n'en plaisaient pas. Alors, pourquoi sa maison n'est pas restée, n'est pas devenue un musée? Pourquoi ses collections ont-elles été dispersées? Avant de parler de sa maison et de ses collections, j'aurais quand même que vous mettiez les choses au point.
Oh, il y a eu à sa mort, d'abord Sacha Guitry a tout laissé à sa dernière femme. Comme il avait laissé les bijoux à Yvan de Printemps à une époque où ça ne se faisait pas, comme il s'était occupé de toutes ses épouses les unes après les autres. Et vente aux enchères, démolition de la maison qui, un peu comme le Palais Rose, avait deux chambres, donc ce n'est pas rentable pour un promoteur immobilier. Et l'un et l'autre, ces maisons ont été démolies. Les collections de Sacha Guitry étaient inouïes. Et réapparaissent encore dans les salles des ventes des objets quand on a la chance qu'ils soient restés en France.
Mais pourquoi ?
Eh bien, officiellement, il y a des dettes fiscales, puisque Sacha Guitry a été, par exemple, la valeur de l'immeuble est à peu près de 30 millions, mais il y a eu de l'impôt après la guerre, je crois qu'on lui a réclamé 8 millions. Et puis pendant... en attendant d'avoir le fameux jugement, les deux jugements de non-lieu disant qu'il n'était pas un collaborateur, tout au contraire, avec des témoignages des plus grands résistants comme le colonel Rémy ou la secrétaire de Parodi qui était sa secrétaire bénévole pendant toute l'occupation et beaucoup d'autres personnes extraordinaires. Néanmoins, à cause de cette erreur, il s'est trouvé pendant 3 ans sans pouvoir travailler, avec ses comptes bloqués. Et il a donc été obligé de vendre ce qu'il avait comme objet chez lui, avec notamment des tableaux qui avaient en plus, pour lui, une valeur sentimentale considérable.
Mais pas tous, quand même.
Beaucoup étaient remplacés par des photographies, etc.
Ouais, parce qu'en plus, il y a des imbéciles qui ont dit que c'était des faux chez lui, c'est pas grave et tout. Non, non,
non. Vous l'avez très bien dit, ce sont des gens mal informés par des gens mal intentionnés.
Bon, alors, oui, ben alors... Comment se fait-il? Parce que son hôtel venait de son père, je crois.
Alors, ce qui est merveilleux, c'est que le père avait fait des tournées en Amérique latine et avait pu acheter le terrain sur le champ de Mars où personne n'avait construit à l'époque. Et deuxième tournée, il a pu construire le petit hôtel. Quand son père est mort, Sacha s'est rendu compte que, hormis l'hôtel, il y avait un certain nombre de dettes de son père qui, heureusement, m'ont permis de constater que mon père ne s'était privé de rien. Ce qui est une merveilleuse formule. Donc, Sacha va habiter dans l'hôtel, mais quand Sacha a 20 ans et qu'il se sépare de son père, il vend des dessins au rire et au sourire d'Ifrance. Et puis, il y a des moments où on le paye un petit peu lentement dans la maison d'édition. Donc là, on était en 1904-1905, ça s'est sûrement beaucoup amélioré depuis. D'ici là, Sacha se trouve sans argent un jour pour manger. Il va demander à Capu, qui était le meilleur ami de son père, qui lui donne un louis en disant « n'y reviens pas ». Et donc, Sacha n'a absolument rien. Mais dès 1905, la pièce de théâtre marche très bien, il a ses droits d'auteur, et au lieu de garder ça en banque, comme font beaucoup de personnes, il décide d'acheter un tableau, et si bien qu'il a toujours son compte en banque presque à zéro. Et il achète un tableau chez Monet, qui est un grand ami, chez Renoir, qu'il connaît très bien, chez Rodin, qu'il adore également. Mais la collection, par la suite, grâce au Triomphe, où il a parfois jusqu'à 4 à 5 pièces qui se jouent simultanément à Paris, il joue lui-même dans une pièce avec Yvonne, son père, Lucien Guitry, joue une pièce de Sacha, Rému joue le Blanc et le Noir, il y a une revue qui se joue en même temps, les droits de l'auteur sont terriblement importants, et Sacha Guitry, à ce moment-là, achète tout ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire que la collection, au point de vue peinture, va de Rembrandt jusqu'à Picasso. Et quand il y a des Toulouse-Lautrec, il n'y en a pas un, deux, il y en a une demi-douzaine à chaque fois. Et il y a des Van Gogh, il y a des Matisse, il y a le portrait de Cézanne par Cézanne, Mallarmé par Renoir. La liste est absolument impressionnante. Et c'est la même chose au niveau des livres, car les livres qu'il a sont absolument prodigieux. Par exemple, vous avez le fameux exemplaire de l'École des femmes où Molière a effacé, a barré le mot « amour » en écrivant « esprit ». Il a réussi à pouvoir maintenir la main dessus, c'est raconté dans le livre d'une façon étonnante. Et puis, vous avez tout. Vous avez ça va Matisse, vous avez Van Gogh, vous avez Utrillo, vous avez Dufy, il y a absolument tout le monde. En sculpture, c'est invraisemblable également, puisqu'il n'y a pas que Rodin, il y a Bourdelle, il y a tout le monde. Il y a de très beaux objets chinois, ce qui est tout à fait étonnant. Il y a des objets d'art noir, ce qui est encore plus stupéfiant. Et il y a les autographes, dont le fameux autographe d'Henri IV, écrit à Gabriel Destrée, où il y a une correction de la main d'Henri IV, il barre un mot, le mot panache, et Sacha de dire, il aurait dû penser qu'il était ineffaçable.
Il y a aussi un mot que j'aime beaucoup, vous savez, il voulait absolument la colombe de Picasso, le dessin, il dit, j'étais prêt à l'acheter à n'importe quel prix, et c'est à ce prix-là que je l'ai eu.
Exactement. Exactement.
Alors attendez, deux, trois petits trucs. D'abord, en quelle année a-t-il été construit par Lucien Guitry, son père, comédien ?
Je crois que c'est vers 1900.
Et son père est mort ?
En 25.
En 25, absolument.
Mais alors, si vous allez... Bon, il y a un immeuble, au moins on n'a pas mis une tour, mais enfin c'est quand même un crime. Et il y a toujours quand même le buste de Lucien Guitry... Et on a rajouté aussi, ici a vécu Sacha Guitry de 25 à 57.
Voilà.
Voilà. Alors, on oublie aussi une chose, je sais que vous ne l'avez pas oublié, c'est que c'est un excellent dessinateur. J'étais l'autre jour en train de parler avec un de mes amis qui est un grand illustrateur, Philippe Dumas, et peintre, mais surtout illustrateur. Il a illustré 300 bouquins... dont certains qu'il a écrit et tout, il m'a dit « N'oublie pas de parler de Sacha Guitry, dessinateur. » Eh bien, je n'oublie pas. Alors, parlez-nous un peu du dessinateur. C'est un coup de crayon formidable. En fait.
Extraordinaire. Il faisait des caricatures au départ qu'il vendait dans les journaux. Pour faire une caricature, il faut maîtriser parfaitement le dessin. Quand Monet était très pauvre, jusqu'à ses 50 ans à peu près, il vendait des caricatures dans les journaux. Il était copiste au Louvre, ce qui montre une technique absolument prodigieuse de la part de Monet. Sacha dessinait très bien, faisait absolument ce qu'il voulait. Vous avez par exemple le fameux portrait d'Albert Villemetz qu'il a dessiné sur sa table de salle à manger pendant qu'il était en train de dîner avec une allumette en moins de 5 minutes. Les portraits concernant son père, le fameux buste dont vous avez parlé, c'est lui, Sacha Guitry, qui a coupé un bout de son jardin pour que le buste existe pour son père pour toujours, inauguré avec Yvonne Printemps aussi. Et ses capacités, alors il a fait beaucoup de jeux de mots sur la partie dessin, mais quand vous êtes un très bon dessinateur, vous êtes encore plus sensible à la peinture, au dessin des autres, parce que vous comprenez absolument tout.
Mais lui, il n'a jamais peint.
Si, vous avez des peintures. Par exemple, le portrait dans le livre sur Yvonne Printemps dont nous venons de parler est un portrait de Sacha.
Ah.
Oui, c'est pour ça que c'est un portrait absolument stupéfiant.
Bah, on a envie de dire qu'il savait tout faire. Quoi.
Oui, tout à fait.
Réaliser des films, les interpréter, les diriger, les écrire, les jouer, les dessiner et tout. Mais moi, j'ai connu quelqu'un qui était un grand collectionneur de dessins de Sacha Guitry qui, malheureusement, a vendu sa collection. Bon. Et mais ce qui m'a plus exaspéré, c'est pas le fait qu'il vende sa collection, c'est que l'État ne l'achète pas.
Je suis d'accord. Alors, vous avez des choses tout à fait étonnantes qui sont dans les archives, c'est que Sacha faisait des charges. C'est-à-dire, par exemple, André Messager, avec qui Sacha avait fait L'amour masqué et également une autre opérette, avait un caractère insupportable. Il était beaucoup plus âgé. Donc, vous avez des portraits-charges absolument extraordinaires qu'on a publiés également dans le livre, où vous voyez Messager normal, et à la fin, il ressemble un petit peu à un vautour. Mais c'était gardé sur une dizaine de dessins de façon totalement pour lui. Il faisait ça pour lui-même, pour s'amuser. Vous avez des portraits-charges de mon grand-père également, d'Albert Villemetz, où au départ, il est tout à fait ressemblant, et puis au fur et à mesure, il accentue le grand nez que les Villemetz ont de façon historique. C'est extrêmement amusant, il dessinait d'une façon prodigieuse. Et en ce qui concerne dans sa collection, il y a une chose dont on ne peut même pas imaginer, ce sont les manuscrits, le manuscrit d'éducation sentimentale entière de 1600 pages, le manuscrit de Poil de Carotte, ceux de Courteline, Louison de Musset, etc., etc.
Alors, il me revient une petite chose avant qu'on lise un message que je n'apprécie pas beaucoup, mais bon, après tout, on est sur Radio Courtoisie, nous sommes pour la liberté d'expression, vous êtes d'accord avec moi. Alors, je me souviens aussi que son père avait construit cet hôtel particulier sans fenêtre au rez-de-chaussée.
Ah oui, ça c'est une histoire assez étonnante. Le père était un homme qui aurait préféré supporter une erreur plutôt que revenir sur ce qu'il avait dit. Et il avait dit à l'architecte qui était très en renom, mais qui était un de ses amis déjà à l'époque, « Je n'ai pas besoin de fenêtre dans ma chambre parce que lorsque j'arrive, il fait nuit, donc je n'ai pas besoin de termer, fermer, etc. etc. »
Il était plutôt au premier étage, sa chambre, non ?
Ben non, elle était justement au rez-de-chaussée.
Ah bon, mais...
C'est là où il y a le bureau après, Madame Choiseul, c'est là où vous avez l'énorme salle de bain qui a été transformée après en bibliothèque, on a des photos, etc., etc. Et donc, il a préféré monter au premier étage, car au premier étage, vous avez le fameux bureau-galerie de Lucien Guitry, qui fait 13 mètres sur 5. À droite, ce qui devait être un petit salon, et qui finalement va être la chambre à coucher de Lucien Guitry, où il va mourir, et que Sacha va faire couper en deux parties, une pour lui et une pour sa femme. Et à gauche, vous avez la petite salle à manger, où l'on tient à 6 personnes maximum, car rien n'est plus agréable que de dîner à 4 ou 6, mais pas plus, pour pouvoir vraiment parler.
C'est tout à fait vrai.
Ben oui, mais c'était très rare à l'époque.
Ou alors un petit buffet dînatoire, on peut aller jusqu'à 8, à mon avis.
Mais c'était volontaire de la part du
Sacha. Alors, je vais vous lire la... Bon, je trouve ça un peu... Je le dis à Titus, là, qui se prénomme lui-même Titus, que je trouve ça un peu fielleux. Mais vous allez répondre. En deux parties. Bonsoir à tous, c'est gentil. J'ai lu dans le journal de Maurice Garçon, vous avez raison, c'est un très bon journal, je l'ai lu aussi, il a dû paraître aux belles lettres, un portrait satirique du personnage de Guitry, toujours théâtral dans la vie. Première réponse d'Albert Villemetz.
Je ne vois pas en quoi être théâtral est considéré comme une insulte en dehors de quelqu'un qui n'aime pas le théâtre. En réalité, Lucien Guitry avait très bien répondu à ça en disant « L'original, c'est moi, le comédien ». Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que les gens qui disent ça, je ne parlerai pas de Maurice Garçon parce qu'il ne faut pas parler des gens de façon négative, mais les gens qui disent ça ne l'ont pas connu dans l'intimité comme Albert Villemetz ou comme les autres personnes dont nous avons toutes les archives, ou comme Henri Jadot, que j'ai intimement connu et qui est mort à 103 ans et qui était son secrétaire et son plus proche collaborateur. Sacha Guitry était au contraire quelqu'un qui écoutait beaucoup les gens, qui parlait très peu. Mon père, Claude Villemetz, a écrit, et nous avons publié ça également, qu'il écoutait les autres, sinon comment cet autodidacte aurait pu apprendre autant de choses. Il passait son temps à faire le bien, et nous avons développé ça encore dans une autre chose. Donc, l'idée théâtrale déclamant, en plus, je vous comprends dans quel sens c'est dit. Et c'est malheureusement totalement l'inverse de la réalité. Lucien Guitry, comme Sacha Guitry, jouait vrai à une époque où l'on déclamait. Lucien Guitry était même la première personne à ne pas déclamer en France. Et Sacha, regardez-le dans les films, n'oubliez pas que certains ont plus de 100 ans. Quand vous voyez certains des films, on se retrouve à 70, 80, 90 ans. On n'a pas idée à peu près de quelle façon la façon de parler était différente. Regardez le journal télévisé de l'époque et vous verrez que l'aspect grandiloquent que laisse supposer le mot théâtral est pris, à mon avis, dans une mauvaise acceptation, ou qui n'est pas celle que j'aime. Moi, celle que j'aime, c'est le théâtre. Pourquoi ? Parce que le théâtre rend les gens heureux. Le théâtre s'est développé dans deux bureaux également, où cela permet l'oubli des chagrins et des maux. Donc, le théâtre est une merveille de la nature pour pouvoir rendre les gens heureux, et en aucun cas quelque chose de négatif. Mais je crois qu'il y a une deuxième question.
Oui, il fait remarquer, garçon, que durant l'occupation, l'hôtel était très bien chauffé et que le rationnement ne faisait absolument pas sentir.
Alors là, on retombe malheureusement dans les rumeurs les plus étonnantes. Sacha Guitry a toujours été bien chauffé dès qu'il a commencé à gagner de l'argent. L'argent qui venait d'où d'ailleurs à propos, hein ? L'argent, il venait du bonheur du public. Il venait de ce que les gens allaient le voir au théâtre. Et après avoir passé une heure ou deux heures d'un spectacle merveilleux, c'est le seul cas, ça va être remboursé par la Sécurité sociale. Donc, ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas une question de vendre quelque chose à quelqu'un avec une marge. C'est vous qui êtes sur scène, ayant écrit quelque chose de merveilleux pour « Adore ton métier, c'est le plus beau du monde ». Donc, en revanche, pendant l'occupation, Sacha Guitry avait payé énormément de choses à des gens, puisqu'on parle du charbon. C'est développé dans 4 ans d'occupation que l'association des amis de Sacha Guitry vient de publier. Et là, vous avez tout le détail concernant l'occupation. Rappelons que ce livre est sorti juste après-guerre et que personne n'a trouvé une seule erreur dedans, comme d'habitude. Alors après, il y a les rumeurs qui malheureusement ont la vie dure, et comme disait si bien Madame Sarah Bernard, la légende parfois a plus d'importance que la réalité.
Et puis, sous l'occupation, il n'a pas cessé d'organiser des tombolas, des ventes, des choses comme ça, pour aider justement les gens qui étaient dans une situation bien pire que lui, y compris les prisonniers d'ailleurs.
Absolument. Dès qu'il est revenu à Paris, il a ouvert un bureau d'entraide pour l'Union des artistes, il a fait des galas de bienfaisance, toujours des galas de bienfaisance pendant l'occupation qui ont rapporté plus de 10 millions. Chaque fois qu'il y avait un gala, c'était pour offrir une ambulance, pour le secours des malheureux, etc. Mon grand-père, Albert Villemetz, a fait d'ailleurs la même chose par la suite à la SACEM en créant le comité du cœur qui existe toujours pour les artistes qui n'ont pas eu de la chance pendant toute leur carrière.
Patrick Wagner, tu...
Oui, éventuellement, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. C'est peut-être aussi la modernité de Sacha Guitry, donc que ce soit sur le théâtre, le cinéma ou le...
Cinéma, on va en parler, c'est le sujet, mais bon. De toute façon, ce qui est moderne est classique, et ce qui est classique est moderne. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus classique que Molière, il n'y a rien de plus... et de plus moderne que Molière. Voilà, et puis Guitry, c'est pareil. Alors, puisque nous sommes sur Radio Courtoisie, je vais vous passer une petite chanson quand même interprétée par Albert Préjean, qui, ne l'oublions pas, était pilote de chasse quand même en 14-18. Et les paroles sont de Sacha Guitry et d'Albert Villemetz. Et ça s'intitule, sur une musique de Eman, Amusez-vous. Mais alors, ils ont fait beaucoup de chansons ensemble, Guitry et Wilmette ?
Alors, celle-là, elle vient d'une opérette. C'est donc encore plus qu'une chanson qui s'appelle Florestan Ier, prince de Monaco. Et c'est une opérette entière qui raconte la vie de Florestan Ier. Et vous allez entendre le programme du roi Florestan Ier, du prince de Monaco.
En tout cas, on a envie de le prendre pour nous aussi, ce programme. Allez, on y va.
Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous, commodez-vous. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici pas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zou. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous, comme un fou. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zou.
Pour que la vie soit toujours belle, ah, que j'aimerais un quotidien qui n'annoncerait que de bonnes nouvelles et vous dirait que tout va bien. Pour ne montrer que les avantages, au lieu d'apprendre les décès, on apprendrait les héritages. C'est la même chose et c'est plus gai. Pour remplacer les journaux tristes, que ça serait consolateur de lancer un journal optimiste qui dirait à tous ses lecteurs. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous, commodez-vous. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zou.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui, c'est une chanson qu'on a quand même du mal à chanter aujourd'hui, je trouve. Albert Préjean en a chanté d'ailleurs une autre, c'était « La crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or ».
Il en a chanté une autre dans l'opérette Dédé, qui avait été créée par Maurice Chevalier, opérette d'Albert Wilmette, qui est « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire ».
Oh.
Et si bien qu'on retrouve dans les deux cas Albert Wilmette et Sacha Guitry dans « Florestan Ier ».
Nous allons parler, ce qui va faire plaisir, j'espère, aux auditeurs et aussi à Patrick Wagner.
De littérature,
Non, littérature, mais de modernité de Sacha Guitry. Or, son premier film est de 1914, il est muet, il fait 22 minutes, il sera après sonorisé en 52, il fera 44 minutes. Il a le sens des proportions, hein, notre ami Sacha Guitry. Alors, historique de ceux de chez nous, Albert Villemetz.
Voilà. Sacha Guitry est très anti-allemand, comme Albert Villemetz, comme Sarah Bernhardt. Ils sont nés à l'époque où la France n'a pas l'Alsace-Lorraine. C'est les Allemands qui l'ont récupéré. Juste avant la Première Guerre mondiale, les Allemands font un manifeste, les intellectuels allemands font un manifeste sur la dégénérescence de la culture française et qui sont là, heureusement, pour pouvoir remonter les choses. Sacha est plus qu'outré, lui qui avait interdit dès le départ ses pièces au jeu en Allemagne dès 1905. Sacha Guitry répond à ce manifeste par un titre merveilleux, « Ceux de chez nous », montrant des personnes qui sont connus dans le monde entier et qui, à une exception près, sont des amis intimes. Amis intimes de Monet, Monet qui n'avait comme ami que Sacha, Octave Mirbeau, qui est un homme que j'adore, et Clémenceau, et ce qui va permettre à Sacha de filmer Monet. Et quand vous voyez Monet en train de peindre, c'est grâce à Sacha Guitry qu'il a pu le faire. Quand vous voyez Rodin en train d'en sculpter, c'est grâce à Sacha Guitry qu'il a filmé dans le film dont vous venez de parler. Quand on voit Renoir, les doigts déformés par la maladie et les pinceaux accrochés avec des petites lianes à ses doigts, déformés par la maladie, c'est grâce à Sacha Guitry. On voit aussi Madame Sarah Bernhardt, on voit Edmond Rostand, on voit Anatole France, on voit toutes les grandes gloires de la France et Camille Saint-Saëns, le grand musicien en train de diriger un orchestre.
Oui, ben on va les citer. Lequel des peintres, d'ailleurs, est pris presque à l'improviste, et est pris complètement à l'improviste parce qu'il ne voulait pas être filmé, c'est...
C'est Degas. C'est Degas. Degas a été malheureusement un homme dont la fin de la vie n'a pas été financièrement à la hauteur de son talent. Il habitait, renié tout le monde, il avait très mauvais caractère, ça il faut l'avouer. Il attaquait les critiques directement et d'une façon absolument inouïe. Mais à ce point-là, c'était extraordinaire. Et Renoir lui avait dit, n'allez pas le voir, il ne vous recevra pas. Et c'est ce qui s'est passé. Renoir avait raison. Degas a dit, non, je ne veux pas être filmé, ça ne m'intéresse pas. Mais Sacha ne voulait pas que dans ceux de chez nous, dans les peintres connus dans le monde entier qui étaient vivants, on n'ait pas au moins une image vivante de Degas. Et vous voyez Degas filmé à la sauvette, dans la rue, en train de marcher, mais au moins il est là.
Boulevard de Clichy ou...
C'est là où il habitait, au cinquième étage, un tout petit immeuble, sans ascenseur.
Oui. Alors, il y a Claude Monet.
Voilà.
Il y a Rodin.
Rodin en train de sculpter et disant tout le temps, vous me direz qu'on voulait que je m'arrête. Il n'avait pas compris que c'était du cinéma. Il croyait que c'était une photo. Alors Sacha lui avait dit, surtout, ne me parlez pas pendant que qu'on vous filme. Et bien entendu, Rodin continue à parler en sculptant. Toc, 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 toc. Il disait, vous savez ce qui était mon maître? Mon maître, c'était Carrier-Belleuse. Il m'a donné des leçons. Par la suite, je les lui ai rendues. C'était comme ça tout le temps.
Sarah Bernhardt, qu'il a essayé d'ailleurs de maintenir dans la projection qui a eu lieu au début des années, enfin, oui, au début des années 40, et qu'il a été obligé de retirer tout le film parce qu'il disait sans Sarah Bernhardt, ça n'a pas de sens.
Ben, en réalité, Sacha Guitry a fait de la provocation littéralement dès le départ, puisqu'en juin 40, plusieurs théâtres ont réouvert, le théâtre de l'œuf pour commencer, le concert Mayol après, troisièmement, le théâtre qu'on appelle nous Espace Cardin et qui s'appelait avant le théâtre des ambassadeurs pour les plus âgés. Le théâtre des ambassadeurs appartenait à Henri Bernstein. Il avait été fauché par une bande de gens d'aigrefins, parce qu'il était juif, et il annonçait des théâtres absolument insensés. Donc Sacha, immédiatement, a joué Pasteur, à la gloire de la France, on joue la Marseillaise, président de la République sur scène, général en uniforme, les gens exultaient de bonheur et de patriotisme à ce moment-là. Et il fait passer immédiatement ceux de chez nous, dans le même esprit de montrer que la culture française est quelque chose qui n'est pas négligeable, seulement il y a un petit problème. Il y a Madame Sarah Bernhardt. Et à l'époque, les lois ariennes interdisaient que ce soit filmé. Et ils s'en fichent. Ils le passent au Théâtre de la Madeleine en conférence. Alors, nous avons republié d'ailleurs les extraits d'autorisation de la censure allemande qui supprime Sarah Bernhardt de l'autorisation, mais Sacha s'en moque. Il va beaucoup plus loin, puisqu'il n'hésite pas à dire au début, comme dans la version de Frédéric Rossif 52 dont vous avez parlé, et voici maintenant celle que mon père appelait Notre-Dame, Notre-Dame du théâtre, et celle que je considérais comme ma seconde mère. Osez dire, en juin 40, ma seconde mère, à propos de Sarah Bernhardt, qu'à juste titre, les Allemands considéraient comme étant non aryenne. La seule chose qu'il pouvait faire de plus, c'est mon auguste grand-père prenant la défense des Juifs en janvier 1941
et se faisant interdire. Que vous avez publié et que nous avons évoqué d'ailleurs
exactement.
Ici.
Et une autre pièce qui a été interdite, le dernier troubadour avec Charles Trenet dont on parlait il n'y a pas longtemps, et dont nous allons publier une partie du texte, qui a été interdite également. La pièce Le Soir de Sterlitz, que les Allemands, qui avaient un peu de culture à l'époque, se sont rendus compte que le titre Le Soir de Sterlitz, c'était quand même un peu gênant pour eux. Alors Sacha Guitry a reproposé un deuxième titre, Vive l'Empereur. Et là, ils n'ont rien osé dire, si bien que c'est passé. Et puis, ils l'ont embêté, après tout ça, avec des coupures dans le film, de façon absolument constante. Ils ont donc interdit, après 52 représentations à la Madeleine, le film Ceux de chez nous, avec Sarah Bernhardt, puisque Sacha Guitry refusait d'enlever Sarah Bernhardt. Pendant ce temps-là, la presse collaborationniste est épouvantable, le pilori, la France au travail, un troisième que je ne citerai pas, attaquait Sacha Guitry de façon absolument constante. Et Sacha Guitry continuait à, dans les films, mettre des choses que la censure coupait régulièrement. Voilà.
Alors, il y a aussi Camille Saint-Saëns, et dans la version sonorisée, et évidemment, il le filme de face. Et il dit, c'est la première fois que vous voyez un chef d'orchestre de face. Parce que c'est vrai, à part quand il salue, un chef d'orchestre, on le voit toujours de dos, ou légèrement sur le côté. Antoine du Théâtre Antoine. Et on s'aperçoit d'ailleurs, c'est que déjà il est dans la modernité, parce qu'Antoine, c'était déjà une façon d'aborder le théâtre. Renoir, bien entendu, on en a parlé. Edmond Rostand, bon, on a bien beaucoup de choses. Anatole France. Grand monsieur, Lucien Guitry, son père. Alors, il y a tous les gens qu'il aurait pu filmer. Rapidement, dites-nous en quelques phrases, pourquoi il n'a pas filmé Clémenceau ?
Il a connu Clémenceau bien plus tard, grâce à Monet, et il le voyait à la fin.
Oui, mais le film est fait en 14, et en 14, Clémenceau est...
Il n'avait pas encore sauvé la France, comme a été publié dans le journal à la mort de Clémenceau par M. Poincaré, qui n'était pas justement un de ses amis politiques.
Bon, Alphonse Allais, il est mort en 1905.
C'est pour ça qu'il n'a pas filmé, et ça a dû être un... Et nous avons publié un livre sur Alphonse Allais, dont nous avions parlé une fois, avec une très belle photographie d'Alphonse Allais, prise par Sacha Guitry, qui en plus de dessiner et de faire des films, faisait aussi des photos.
Georges Feydeau.
Merveilleux Feydeau, qui était le témoin à son mariage avec Yvonne Printemps, et dont Sacha Guitry avait été follement amoureux quand il avait 12-13 ans de la femme. C'est à elle à qui il va donner le fameux bouquet de violettes, prenant sur ses économies.
Alors j'ai reçu dans mon émission, mais je n'étais pas le seul d'ailleurs, son petit-fils Alain, qui était de la Comédie française, qui était un homme adorable.
Qui ressemblait beaucoup à son grand-père.
Alors là, n'ayant pas connu le grand-père, non, mais je ne dis pas que vous l'avez connu. Oula.
130 ans, j'ai 130
ans. Alain de Noailles, Jules Renard, alors là, pourquoi il est mort avant, je crois.
Juste avant.
Courteline.
Oui.
Aussi mort.
Non, Courteline, c'est plus loin. Parce que Courteline, c'était un cas particulier. Parce que Sacha Guitry, après la Première Guerre mondiale, c'était un peu incroyable historiquement, les gens voulaient une réconciliation entre la France et l'Allemagne. Sacha continue à dire non, je ne veux pas que mes pièces soient jouées en Allemagne. Et le président Poincaré, qui à l'époque était aux finances, avait dit à Sacha Guitry, venez me voir. Et Sacha avait dit, je refuse, après le rendez-vous, de faire jouer mes pièces en Allemagne. Et Courteline a écrit à Sacha Guitry en disant, écoutez Sacha, ça suffit, laissez vos pièces jouer en Allemagne. Alors nous avons dans le livre la lettre de Courteline et la réponse de Sacha, qui dit « Vous y croyez-vous au changement de la mentalité allemande ? Moi, j'y crois pas. » Et donc, c'est assez merveilleux de voir qu'il est son anti-côté allemand, son anti-teuton, était absolument prophétique par rapport à ce qui est arrivé. Alors, est-il de vous dire que la guerre de 14 n'a rien arrangé, que l'occupation de Paris n'a rien arrangé non plus dans ses sentiments anti-allemands.
Peut-être Madame Merkel non plus, mais c'est un sujet que nous n'aborderons pas. Alors, Jules Renard, bien sûr, donc Courteline. Courteline qui a rendu finalement son œuvre est obsolète, parce que ces messieurs le rond de cuir a été rendu obsolète par l'ordinateur, par l'informatique.
Oui, alors c'est une pièce absolument merveilleuse. Génial. Vous avez raison, c'est
adopté plusieurs fois au cinéma, d'ailleurs.
J'ai vu au moins dans deux choses différentes. Oui, je crois avec Poiret et Serrault dans la deuxième, et dans la première, Victor Boucher, tout ça, c'est absolument prodigieux. Alors, c'est l'idée que des gens de l'administration, un peu comme Albert Villemette, puisqu'Albert Villemette, c'était au ministère de l'Intérieur et tout, et lorsqu'il est arrivé pour d'abord avoir un métier avant d'écrire ses opérettes, il est arrivé en retard au concours. Et l'examinateur de l'administration lui a dit « Monsieur, vous vous croyez déjà dans l'administration ?» Époque merveilleuse d'âge d'or où tous les gens voyaient les choses d'une façon particulièrement humaine.
Alors, évidemment, Colette, Gounod, Debussy... Ah, oui.
Colette, il a écrit une pièce spéciale.
Colette, il aurait pu, parce qu'elle est morte très, très âgée, au Palais Royal,
oui,
d'ailleurs.
Il a même fait une chose particulière, il a écrit une pièce spéciale pour Colette, que l'association des Amis de Sacha Guitry vient de publier, qui s'appelle « Cette pucelle d'Adèle ». Allez sur le site, vous pourrez la lire, c'est assez extraordinaire.
Gounod, Debussy, Tristan Bernard. Alors, on va rappeler quand même que s'il n'a pas été déporté... Et il serait certainement parvenu, hein, bon, avec sa femme, c'est qu'il a réussi à le faire sortir de Drancy.
Exactement.
Et ben alors, pourquoi ne l'a-t-il pas filmé
En réalité, c'est un membre de la famille, presque, parce que c'est un ami de son père. Tristan Bernard a toujours tutoyé Sacha, et Sacha l'a toujours vouvoyé. Et quand il apprend par Reynaldo Hahn qu'il vient d'être arrêté, Tristan Bernard, dans le Midi, immédiatement, il se rend chez le monsieur de l'administration allemande en disant devant témoins, les témoins c'est Cortot, Arletty et quelques autres, vous venez d'arrêter un auteur dramatique, Tristan Bernard, il a 77 ans, vous me direz qu'il est juif, mais pour moi ça n'a aucune importance, je vous demande de prendre sa place en prison puisque vous avez besoin d'un auteur dramatique. Le général allemand administratif a dit « Monsieur Guitry, ne vous énervez pas, je m'en occupe, etc., je vais faire libérer. » Sacha, qui ne se laissait pas berner, a appelé le lendemain en disant « Quand est-ce qu'il est libéré ?» Il a été libéré dans un grand hôpital à Paris pour une raison purement
administrative. Qui était l'ex-hôpital Rothschild.
Qui était toujours l'hôpital Rothschild.
Ça s'appelait toujours Rothschild, de son occupation.
Et dans la pratique, c'est absolument inouï. Parce qu'il a été libéré pour des raisons administratives juridiques allemandes. On a dit qu'il avait 77 ans, donc on le fait sortir là. Après, ils ont régularisé au bout de 10 jours pour une sortie définitive. Et Tristan Bernard a écrit une lettre merveilleuse remerciant Sacha Guitry seul de tout ce qu'il avait fait pour lui.
Il faut dire qu'il a un fils, Raymond, qui est un excellent réalisateur. Il a été comédien aussi, d'ailleurs. Excellent réalisateur, mais qui, lui, n'aimait pas tellement Sacha, mais c'est ce que j'ai lu quelque part.
Ouh, enfin, bon, peu importe.
Alors, on continue avec Marguerite Moreno.
Merveilleuse Marguerite Moreno, qui était une beauté d'une sylphide.
Pas dans les derniers films, cher ami.
Nous sommes d'accord, sylphide quand elle était jeune.
Est-ce que le Arthur Meyer, c'est le fondateur du musée Grévin?
Non, c'est le fondateur du Gaulois, le journal.
Ah ben, je crois que c'est aussi le fondateur du musée Grévin.
Ah ben, je savais pas ça. Et c'était un homme prodigieusement intelligent qui a changé d'opinion politique 50 fois pour le Gaulois, puisque tout en...
Mais, voilà. Je tiens à vous le dire parce que je connais quand même bien... Son musée Grévin était un musée contre-révolutionnaire. Hein.
Je ne savais pas.
Ah ben on voyait la tête de la princesse de Lamballe montrée à Louis XVI, on voyait des tas de scènes contre la Révolution française, et bien entendu, maintenant, si vous allez au musée Grévin, il a complètement changé de genre. Ah oui. Je crois qu'il y a même un révolutionnaire massacreur qui a son buste, enfin bref. Marcel Schwob, grand écrivain. Et un jour, j'avais dit à Jean Dutour, pour moi, c'est le père de l'héroïque fantasy à la française. Il m'a dit, non, c'est Victor Hugo. Mais bon, il fallait toujours qu'il ait le dernier mot, le père Dutour. Grand écrivain, Marcel Schwob.
Grand écrivain, et ce qui est merveilleux, c'est que toutes les personnes que vous venez de mentionner, Sacha Guitry nous donne de grands commentaires sur eux. Donc, nous apprenons énormément de choses sur leur caractère, sur ce qu'ils ont fait, car Sacha Guitry a connu en réalité tout le monde, et là nous avons une sélection de grands Français. Et c'est passionnant de lire dans ce livre tout ce qu'il écrit les concernant.
Oh, puis ça alors, il y a Albert Villemetz.
En réalité, si vous commencez le livre 4 ans d'occupation suivi de 60 jours de prison, ça commence par un grand entretien avec Albert Villemetz sur une douzaine de pages. Donc, il était logique de le mettre.
Je les ai lus et relus et je crois que vous allez les rééditer.
Oui, nous avons l'association à rééditer 4 ans d'occupation et 60 jours de prison parmi les livres. Mais nous allons tous les rééditer parce que c'est tellement pratique. Alors, on peut les trouver normalement à la librairie Duquesne, à la librairie Caliani, mais sur Amazon immédiatement, vous les avez deux jours après. Et le nombre de pièces et d'œuvres de Sacha est absolument considérable. Ce que nous faisons, c'est que nous en profitons pour publier beaucoup de photographies, beaucoup de documents, et qui viennent illustrer les textes. Ce sont des documents d'archives, ce qui permet d'avoir des choses absolument historiques.
Nous sommes sur Radio Courtoisie et j'ai la grande joie de recevoir Albert Villemetz, qu'on ne présente plus sur Radio Courtoisie, mais je vais vous le présenter quand même. Il est auteur, acteur, parfois réalisateur, et surtout aujourd'hui, il est là en tant que président de l'Association des Amis de Sacha Guitry. Et Patrick Wagner, qui est un garçon formidable, c'est un genou à côté de nous, hein, bon, mais qui est le fondateur de la revue Livre Arbitre, à laquelle on peut s'abonner, parce que j'ai dit qu'on pouvait la trouver sur Internet, mais on peut s'abonner.
Oui, tout
aussi.
À fait, oui. Pour la modique somme de 50 euros, ben, vous aurez 4 numéros.
C'est rien, 50 euros.
Par an.
D'autant plus que le numéro est à 15 euros.
À 15 euros, oui. Pour 168
fois,
pages.
4 fois 15,
dense.
60, on gagne 10 euros.
Mais oui, formidable.
Alors, comment on fait pour s'abonner par Internet
Oui, voilà, par Internet, ou alors on peut m'envoyer directement un courrier à mon adresse que je peux donner là tout de suite. Donc, Livre Arbitre chez Patrick Wagner, au 36 bis rue Ballard, dans le 15e arrondissement de Paris.
Et ne lui écrivez pas sans joindre un chèque de 50
euros. Ah oui, voilà,
50 euros.
Voilà.
50 euros rédigé à l'ordre de Livre Arbitre
ou non, de LPM, mais bon, le Livre Arbitre, ça marche aussi.
Mais... Bon, très bien, très bien. C'est formidable. Non, mais je vais vous interroger tout à l'heure sur votre revue, mais là, je suis dans le livre que vous avez réédité, ceux de chez nous. Alors, je vais lire un petit bout de Sacha Guitry parce que je vais lui taper sur les doigts. Vous me le permettez, c'est jamais méchant de ma part. Je me suis dit quelle émotion nous aurions si tout à coup on nous montrait Michel-Ange sulquant son Moïse, Léonard de Vinci peignant la Joconde, Bossuet prêchant, Jean de La Fontaine écrivant une fable, Racine, Voltaire, Jean-Jacques, etc. Mais je tiens à vous dire que au XVIIIe siècle, Fragonard a réalisé 8 portraits qu'on appelle les figures de fantaisie et qu'il a peint des gens de son époque, comme le plus connu étant Diderot. Ça m'étonne qu'il n'ait pas pensé quand même aux figures de fantaisie de Fragonard. Le grand Sacha Guitry.
Ben, ce sont des tableaux, ce ne sont pas des films.
Oui, d'accord, mais enfin bon. Et justement, puisqu'on parlait de modernité de Sacha Guitry, je crois qu'il a beaucoup influencé des cinéastes dont certains ont vraiment occupé les années 50, 60 et même sont encore vivants. On va les évoquer, parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait dans ce chez nous? Il pose sa caméra. Alors, il peut d'ailleurs la faire bouger légèrement, parce que je crois qu'il y a un travelling dans le jardin de Monet. Mais là, il a bien raison. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un travelling quand même. Ou alors, bon, bref. Mais, donc, il a posé sa caméra. Et moi, je me dis, mais c'était déjà très moderne. Parfait. Finalement, il a influencé Andy Warhol.
En réalité, vous avez entièrement raison. C'est même plus que très moderne, car le caméraman qui faisait la technique, au départ, n'avait pas voulu faire des gros plans. Dans ceux de chez nous, vous n'avez que des gros plans.
C'est-à-dire pas tout à fait. Hein.
Oui,
non, pas des gros. Le gros plan, c'est vraiment les épaules et le visage.
On ne voit jamais les pieds ni le bas des jambes.
Oui.
Et à l'époque, quand on photographiait les gens ou quand on les filmait, on prenait le maximum de trucs. Les fameuses photographies avec un petit décor, une table, une chaise, un tapis, une colonne, un rideau, pas du tout. Les photographies que Sacha a fait de tout le monde, d'Anatole France, de Jules Renard, d'Alphonse Allais, etc., il les a tous pris presque format carte d'identité, à peine un peu plus grand. Et le caméraman avait dit, Ça se fait pas comme ça, monsieur Guitry. Le film, il faut le prendre beaucoup plus large. Et ça ne s'agit pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est voir les visages et le haut du corps. Et donc, ça a été pris comme ça. Le caméraman ne voulait pas. Mais c'était Sacha qui faisait les frais du film. Il a été tellement novateur qu'Orson Welles a reconnu qu'après le fameux roman d'un tricheur, il a gardé l'idée de la voix off pour le film Citizen Kane. Orson Welles, qui a tourné dans deux films de Sacha Guitry, d'abord dans Si Versailles m'était compté, qui vient d'être sorti aux éditions Rimini, remasterisé et restauré d'une façon absolument éblouissante. Et j'ai eu la chance qu'on me demande de raconter l'histoire du film dans le nouveau Blu-ray qui vient de sortir. Orson Welles joue le rôle de Benjamin Franklin, ce qui est merveilleux. Et on le voit jouer Hudson Lowe, c'est-à-dire le gouverneur à Sainte-Hélène, dans le film Napoléon. Et on peut multiplier les grands exemples. Il n'y a pas une personne que Sacha Guitry n'a pas fait jouer dans un de ses films. Très souvent, il a découvert des acteurs qui n'étaient pas connus. Je citerai juste Rému, qui était dans le musical. De la même façon, Gabin avait commencé dans le musical. De la même façon, Croussin avait commencé comme acteur. C'est Albert Vilmes qui a pu permettre de
le découvrir. Oui, mais enfin, Gabin, il a filmé bien, bien longtemps après quand même. Hein.
Non, mais Gabin avait commencé comme danseur dans les opérettes de Vilmes.
On dit même qu'il y aurait une petite histoire avec Miss Tinguette en sortant d'un tapis qu'on déroulait sur scène, mais on laissera ça. Non, mais alors, attendez, moi je voudrais revenir à la modernité. Par exemple, quand Andy Warhol, avec Warhol ou Warhol, il était d'origine tchèque d'ailleurs, il s'appelait Varola de son vrai nom, et il filme les gens de la factory, c'est un peu pour s'amuser, mais en même temps, il laisse tout le mouvement underground, on en pense ce qu'on en peut, mais on a des documents grâce à Andy Warhol, comme on a des documents sur l'art français, grâce à Sacha Guitry. Je tiens beaucoup d'ailleurs au gros plan, parce que le gros plan, c'est vraiment les épaules et le visage, parce qu'il y a un autre personnage, un cinéaste que nous connaissons tous ici, puisqu'il nous a filmé nous-mêmes d'ailleurs, c'est Gérard Courant avec son cinématon.
Absolument.
On va rappeler ce qu'est le cinématon, c'est un portrait muet, d'une personnalité des arts et des lettres, mais connue ou pas connue, hein, il joue pas là-dessus, Gérard Courant, et il filme des cinématons, donc en gros plan, avec un générique qui dit Albert Vilmets, auteur, président de l'association, je ne sais pas ce qu'il y a d'ailleurs sur votre générique, fait à Paris le temps à telle heure, mais si vous êtes à Lille, il mettra fait à Lille le temps à telle heure. Et il en est à presque 3500, je crois, et il nous laisse une mine d'or sur notre époque. Il a commencé en 78. Et ben, c'est un enfant de Sacha Guitry. Vous allez voir, vous voyez, vous discutez avec Gérard Courant, vous lui dites qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que vous pensez de Sacha Guitry. Il vous dira, mais c'est tout, c'est un maître, enfin c'est exceptionnel quoi. Et je me suis même demandé, mais là malheureusement il est mort malheureusement pour lui, mais son œuvre reste, si le Shoah de Lanzmann n'avait pas aussi une influence, car il cherche pas à faire des plans, il cherche pas à faire des belles images, il met sa caméra, des gens qui l'interviewent, vous savez que et ce qui est d'ailleurs très fort, c'est que dans Shoah, il n'y a absolument aucune image d'archive. Voilà. Et je me demande s'il n'y a pas aussi d'autres personnes dont nous ignorons le nom ou l'œuvre, moins connues et tout, mais l'influence de Sacha Guitry dans la modernité est exceptionnelle.
Vous avez entièrement raison, et Octave Mirbeau avait développé ça concernant la peinture de Monet, disant que une personne née après Monet a forcément des conséquences de la peinture de Monet. Donc c'est la même chose pour Sacha Guitry, quand il avait fait dans le roman d'un tricheur un film en voix off, c'est une chose inimaginable à l'époque, les techniciens se demandaient, puisque Sacha Guitry à l'époque n'avait pas 20 ans, est-ce que Monsieur Guitry sait que le cinéma n'est pas muet, puisqu'on enregistrait son son. Et puis dedans, il a fait le cinématon de l'époque, c'est-à-dire on voit Fréhel chanter dans L'homme en un tricheur, ce qui est une merveille. On voit des choses que l'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et c'est absolument extraordinaire.
Alors, on va un petit mot sur... Le livre s'appelle Mémoire d'un tricheur. Et le roman d'un tricheur. Mais on pourrait dire aussi, parce que c'est qu'une voix off, On pourrait dire aussi que c'est un film muet.
En réalité, c'est un film muet avec juste au départ Marguerite Moreno dont vous avez parlé,
oui, oui.
Au départ et à la fin, la marquise du Grain du bourg de Catinax, si j'ai bonne mémoire, et qui est merveilleuse et qui joue un rôle comique absolument prodigieux dedans. Et tout le restant, moi je me souviens que la première fois quand je l'ai vu il y a de cela un certain temps... nos chères auditrices n'étaient pas nées à cette époque-là. Ce qui est certain, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que le film était en voix off. C'est tellement bien fait qu'on est emporté du début à la fin sans se rendre compte qu'il n'y a pas de dialogue.
Nous sommes sur Radio Courtoisie. J'ai le plaisir d'interviewer Albert Wilmets. Donc, on a cité souvent son nom, que ce soit d'ailleurs le sien ou celui de son grand-père, pour tous les livres et qu'il publie sur Sacha Guitry, qu'il republie aussi, et aussi sur le fait qu'il y a une association à Sacha Guitry. Et nous sommes également avec Patrick Wagner. Bonjour, cher cinématoné. Nous
avons
ça tous les trois en commun. Alors, je voudrais savoir un petit peu les débuts de Livre Arbitre, la fondation.
Voilà, c'est tellement vieux. Mais écoutez, moi, en fait, c'est parti de mes années estudiantines à Metz, où j'avais voulu sortir avec quelques amis un petit canard, comme ça, de quelques pages, pour évoquer la littérature, les sujets que j'aimais bien. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, l'idée est restée, et elle s'est développée au fil des années, des décennies maintenant. Et donc maintenant, on est arrivé à ce bel objet, avec une bonne quarantaine de contributeurs et des sujets assez variés, des portraits, des dossiers. Et puis, on évoque des tas de sujets, la poésie, la philosophie, l'histoire, l'histoire des idées. Voilà, c'est assez complet.
C'est une excellente revue. Et je veux dire, dès que c'est vrai, ce qu'a dit Xavier Aymon d'ailleurs, dès qu'on a été présentés ensemble, d'abord je vous ai dit ce que disent tous les auteurs, je pourrais pas écrire dedans. Voilà, j'ai trouvé que c'était une idée formidable parce que.
Ah oui, bah merci encore.
Vous n'en vivez pas, on va pas dire votre métier, vous n'en vivez pas.
Non.
C'est une passion qui vous tient, la littérature.
Bah oui, je suis tombé dedans, un peu comme Obélix, là.
Vos parents sont des gens du peuple ou des bourgeois?
Alors, plutôt des gens du peuple.
Oui.
Mais bon, ça n'empêche qu'on peut quand même
Justement. Mais il y a une époque
Pas de lien
où on sortait de l'école cultivée. Un peu, enfin, pas toujours, mais...
Oui, bon, puis je pense que c'est des goûts qui se cultivent, comme ça. On ne choisit pas spécialement d'être attiré ou pas par la littérature. C'est des rencontres avec des auteurs, des livres qui font qu'après... On continue parce que voilà, on a pris goût à la chose.
Oui, mais alors ce qui est extraordinaire surtout, c'est votre ouverture d'esprit. Parce que, bon, vous n'êtes pas
la littérature avant tout. Hein.
Vous n'êtes pas franchement ce qu'on appelle un garçon d'extrême gauche. Mais quand je vous ai dit qu'il faudrait faire un cahier Roger Vaillant, qui a été membre du Parti communiste, vous avez dit, si c'est un bon écrivain, on y va. Enfin,
bien sûr, on n'a pas de hier. Contrairement à. À ce que beaucoup pourraient penser. Non, on est très ouvert à la littérature en général. Donc après, on ne met pas d'étiquettes, on n'aime pas poser des étiquettes ou ranger les auteurs dans des cases. Un peu comme Philippe Collin, d'ailleurs, pour revenir à Sacha Guitry.
C'est le sujet de votre éditorial, en partie.
Oui, voilà, en partie, parce qu'il s'est permis de faire des petits raccourcis.
Le raccourci.
Le raccourci, ce serait de dire que finalement Sacha Guitry se sentait bien avec l'occupant quelque part et qu'il en aurait un peu profité et que justement le sujet du livre c'est un barman qui opère au Ritz. Et donc, il verrait régulièrement Sacha Guitry boire des verres avec des officiers allemands, ce qui est complètement improbable.
Réponse d'Albert Wilmets.
C'est un monsieur Colin que je ne connais pas.
C'est un Colin froid.
Donc, ne le connaissant pas, je peux rien dire. Ce que je sais seulement, c'est qu'il a très honnêtement dans sa préface, mais encore faut-il lire la préface, indiqué que c'est un roman inventé, les textes présentés comme un journal personnel du barman du Ritz, il indique très honnêtement aussi que c'est lui qui l'a écrit, donc ce n'est pas un ouvrage historique. Et malheureusement, il prend la personne la plus connue de cette époque, qui est d'ailleurs la plus connue en France de 1905 jusqu'à, si Versailles m'était compté, c'est-à-dire Sacha Guitry, puisque Sacha Guitry va faire le spectacle de l'Élysée en 38, par exemple. Donc, c'est un personnage très, très officiel. Et c'est pour ça qu'il l'a pris. Mais il lui dit, fait dire des choses et fait faire des choses qui sont historiquement très inexactes et très tristes pour un homme foncièrement anti-allemand de l'imaginer au Ritz, en train de boire des verres, alors qu'il joue au théâtre tous les soirs, et qu'il y a des activités de bienfaisance constantes que je ne peux pas développer parce qu'on en aurait pour plusieurs heures.
Le bar du Ritz ayant d'ailleurs été le premier territoire libéré, un des premiers territoires libérés par Hemingway.
Comme par hasard.
Vous avez fait un numéro Hemingway?
Non, mais ce serait une bonne idée.
Oui. Et Aragon, vous avez fait Aragon?
Non plus, mais il faudrait l'évoquer. Mais il nous reste tellement d'auteurs à
alors,
évoquer.
Alors, quel est votre prochain numéro? Il faut évidemment d'abord se procurer le Sacha Guitry, oui, où il y a plein de textes intéressants.
Et puis des entretiens
de
Alain
Pocard, évidemment, mais ça c'est...
Parce qu'on a aussi de beaux entretiens avec Pierre Jourde, Jérôme Leroy, Jean Rouault, voilà, donc c'est... Ça reste toujours un peu éclectique, parce que c'est pas toujours des gens qu'on pourrait qualifier des auteurs de droite. Si vous prenez Jérôme Leroy...
Je le connais, c'est un bon écrivain, d'abord.
Oui, tout à fait, oui.
Et puis en plus, il est plutôt proche du Parti communiste.
Oui, voilà, oui.
C'est quand même mieux que d'être socialiste aujourd'hui.
C'est sûr. C'est moins une boîte vide, on va dire. Oui.
Voilà. Bah écoutez, non, mais je suis vraiment ravi de rendre hommage à Libre Arbitre, et vous pourriez envoyer plus souvent quelqu'un de... Pas forcément vous, hein, parce
oui,
que
oui.
Je sais que vous
oui,
êtes parfois
quelqu'un
un
plus
timide.
Compétent que moi, c'est sûr, ce serait mieux.
Ah, il y a des gens qui... Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui écrivent dedans, qui ont déjà été sur Radio Courtoisie.
Oui,
François Casby, qui est un de nos meilleurs critiques littéraires. C'est un homme qui ne vit que pour la littérature, on peut dire.
Oui, hein, on a aussi Lucien Rabouille, Jérôme Bénard.
Ah, Lucien Rabouille.
Des gens qu'on trouve régulièrement.
Lucien Rabouille, il a une excellente émission littéraire,
fait,
une des rares émissions littéraires sur Radio Courtoisie. C'est Lucien Rabouille qu'on retrouve d'ailleurs dans des revues comme Causeur et autres. Vous voyez, on se défend quand même en France, zut, alors, pour essayer de promouvoir, on n'a plus besoin de le faire, mais de préserver la langue française et son génie, Albert Wilmets.
Absolument, et d'ailleurs, dans Libre Arbitre, vous avez de très beaux textes de Dutour, de Jean Tullard également. Tout ça fait un livre très complet, avec de très belles plumes également.
Vous voulez que je vous dise, là, quand j'ai téléphoné à Jean Tullard, j'ai dit, vous savez, j'ai un texte de vous, on pourrait peut-être le repasser, c'est un texte sur le cinéma de Sacha Guitry, car c'est un grand cinéaste, peut-être même encore plus innovant qu'un homme de théâtre, parce qu'il a fait des choses que personne n'osait faire. Hein. Et notamment, il a payé superbement Jean Gabin, qui joue le maréchal Lannes dans Napoléon, qui va mourir d'avoir les jambes sectionnées, et qui dit qu'il y a seulement deux mots à dire, « sire, assez ». C'est extraordinaire. Gabin dit « j'ai jamais été aussi bien payé et tout ». Et c'est formidable tout ça, c'est le grand homme. Et d'ailleurs, cet homme qui a été si embêté à la Libération, Sacha Guitry, il est devenu quasiment, avec la première à l'opéra, je crois, de Si Versailles m'était compté, en présence de René Coty, président de la République à cette époque-là, le cinéaste officiel de la 4e République.
Absolument, et d'ailleurs, il y a eu les trois galas pour Si Versailles m'était compté, Si Paris m'était compté et Napoléon, tous les trois à l'Opéra de Paris, et ce sont des galas de charité à nouveau. Le terme gala doit être pris dans ce sens-là, comme le gala de l'Union d'autrefois, gala de l'Union des artistes. Sacha Guitry était président de l'Union des artistes, c'est pour ça. Et donc, tout ça, ce sont des actions de charité pour les personnes. Ce ne sont pas des galas dans un sens différent.
Il y a aussi, pour les agriculteurs dans la misère, il y a un gala de l'oignon aussi, je crois.
Nous avons publié
non,
la
non,
liste.
Je suis bête.
Nous avons publié la liste non exhaustive de plus de 100 galas de Sacha Guitry, y compris pour Antoine, qui a été fait un très beau gala.
Alors, Patrick Wagner, votre revue Livre Arbitre, vous êtes un homme qui bossait vos 8 heures par jour. Bon,
comme tout le monde, oui.
Oui, mais alors, c'est un boulot énorme en plus.
Ah oui, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, ma femme me le reproche souvent.
Hein. Ça, on ne veut pas rentrer dans ces questions-là. Hein. Ni Albert, ni moi, on a envie de rentrer dans les problèmes du couple.
Non, mais j'ai la chance tout de même d'avoir pas mal de contributeurs donc, qui me proposent aussi des papiers. Donc en fait, il y a beaucoup d'interactions aussi avec mes contributeurs. Donc ça m'allège aussi quand même dans mon travail, on va dire.
En attendant le prochain...
Donc sur Paul Morand, le prochain...
Il sort quand ?
Au mois de juin.
En attendant le prochain, mais procurez-vous ce numéro Livre Arbitre consacré à Sacha Guitry, sous-titré Le Magnifique, voyez, car c'est vraiment un grand, une belle revue sur un très grand homme, quoi. Voilà, c'est bravo Patrick Wagner.
Écoutez, merci,
bravo,
Monsieur Popka.
Vous méritez des soutenus. Et vous, les auditeurs, vous savez que je vous aime beaucoup. D'abord, on respecte toujours les gens qui vous écoutent. Ceux qui ne m'aiment pas ne m'écoutent pas. Mais soyez sympa. Prenez un abonnement ou achetez-en un pour voir ce que
oui,
c'est.
Oui, voilà le plaisir d'offrir.
Voilà, oui, offrez-le-vous d'abord à vous. Et puis ensuite, vous verrez si ça vaut le coup de s'abonner. Mais ça vaut le coup. Ah, chers amis, sur Radio Courtoisie, c'est fou ce qu'on arrive à faire. Et on va se repasser encore une encore. Heureusement encore, une chanson d'Yvonne Printemps, « J'ai deux amants ». Alors, elle est très connue, les paroles sont de Sacha Guitry, évidemment, toujours la musique d'André Messager dans « L'amant masqué ». Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une phrase qui était en tout cas passée à un moment dans le langage de tous les jours, que les hommes, mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Mais on n'a plus le droit de dire ça, puisque de toute façon, ils sont devenus bêtes par la grâce du féminisme. On écoute « J'ai deux amants » par Yvonne Printemps.
J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes, ils me donnent la même somme, exactement par mois, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, ils me croient tous les deux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme.
À Ah, retour à bord. Un tout petit mot d'Albert Wilmets.
André Messager avait mis cette parole de Sacha Guitry un peu par erreur. Et Sacha Guitry dit « c'est merveilleux parce que ça a assuré le plus grand succès de l'amour masqué, d'avoir mis en musique des paroles qui devaient être uniquement dites ».
Albert Wilmets, je le rappelle, est ici en tant que président de l'association des Amis de Sacha Guitry, qui fait un boulot énorme, et notamment en republiant des textes de Guitry et des textes sur Guitry. Et aujourd'hui, on a évoqué, publié par l'association, ceux de chez nous, chez Sacha Guitry, qui est un peu aussi son adresse, on va la donner, 18 avenue Élysée-Reclus, et un livre sur Yvonne Printemps. Et puis aussi, je remercie vraiment Patrick Wagner, parce que je sais, Patrick
merci,
Wagner,
c'est un plaisir de...
que vous n'êtes pas très disert, mais
non.
Vous verrez, plus vous viendrez, plus, voilà. Plus vous serez bavard. Bon, alors, j'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. Bien entendu. Alors, voilà. Je voulais aussi vous présenter une revue qui est quadrimestrielle. Ben, vous savez, le papier, c'est cher aujourd'hui. C'est une revue de poésie. Ça s'appelle L'Albatros. Évidemment, c'est une allusion à Baudelaire, les ailes de géant, l'empêche de marcher, etc. C'est le numéro 182, 2026. C'est une formidable revue de poésie, d'autant plus que Thierry Saja, qui dirige la revue, est en même temps quelqu'un qui est poète, il est éditeur de poésie, il a édité quelqu'un que Patrick Wagner connaissait bien d'ailleurs, Jean Berthaud, notre...
C'est vrai, on l'a évoqué dans le numéro Guitry, avec
Bernard Lecomte, oui. Et franchement, vous savez, il faut aussi faire quelque chose pour la poésie, donc L'Albatros, la revue de poésie, alors dedans il y a même deux poèmes de Dutour publiés dans les années 50 et que son ayant droit, son fils et ami, m'a autorisé à faire publier. Donc L'Albatros, et bien entendu, il y a du Jean Berthaud, il y a du Bernard Lecomte, il y a tout ce qu'on veut, pas des poèmes, des... Voilà. Et bien L'Albatros, tiens, je vous l'offre.
Écoutez, merci, on pourra l'évoquer dans notre prochain numéro.
Et bien bravo Patrick Wagner. Et puis moi, la prochaine émission, c'est le 23 mai. De quoi va-t-on parler le 23 mai ? Surprise ! Surprise !
Vous venez d'entendre le libre journal de la douceur de vivre dirigé par Alain Pocard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 25 avril 2025 de 18h à 19h30. Réalisé par Jocelyn.